France Culture.
Tout de suite, le journal de la rédaction avec Camille Marigot, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Direction l'Assemblée nationale, dès le début de ce journal, journée cruciale dans le cadre de l'examen du projet de budget, avec la taxation des plus riches au cœur des débats depuis ce matin, la taxe Zucman, comme celle sur les holdings, concentre les tensions. Nous parlerons de ces questions fiscales et de leur place dans l'hémicycle avec notre invité, Pascal Saint-Amand, professeur à HEC, ancien directeur fiscal au sein de l'OCDE. Gérald Darmanin, visé par une plainte de plusieurs avocats après avoir rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la santé. On se demandera aussi comment mieux protéger nos enfants sur les réseaux sociaux. Alors qu'en Australie, ils seront bientôt interdits aux moins de 16 ans. Conséquence, une famille d'influenceurs en vogue quitte le pays. À l'étranger, toujours Ottawa qui cherche le réchauffement avec la Chine. Enfin, au Royaume-Uni, le roi Charles a tranché. Son frère Andrew va perdre son titre de prince et sera bientôt expulsé de sa résidence royale, empêtré dans un scandale de plusieurs années pour sa proximité avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Journée sous haute tension à l'Assemblée où la taxation des plus riches concentre la tension, notamment l'article 3 qui porte sur la taxe Zucman. Et depuis ce matin, les députés débattent de la fiscalité du patrimoine et notamment de la taxe du gouvernement sur les holdings, signe de l'importance de ce moment dans l'hémicycle. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a rejoint le Palais Bourbon. Nous retrouvons Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée. Rosalie, bonjour.
Bonjour.
Avant Sébastien Lecornu, c'est la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, qui a pris la parole pour défendre la position de l'exécutif qui refuse de toucher au patrimoine professionnel.
Oui, à chaque interpellation, Amélie de Montchalin repose son principe de base, le cadre dans lequel le gouvernement accepte de négocier. On ne touche pas à la croissance, à l'emploi, à l'investissement, répète inlassablement la ministre.
Il est sain que dans notre pays, il y ait des investisseurs. Je le redis, notre but ici, c'est pas que la justice fiscale amène à appauvrir l'économie. Le gouvernement, vous l'avez compris, a exclu tout ce qui semblait un bien professionnel, ce qui est de l'ordre des actifs opérationnel et productif qu'il nous faut évidemment préserver. Taxer les biens professionnels, c'est taxer une valeur fictive.
Mais même avec ces précautions, le gouvernement fait fuir une partie de ses propres soutiens, le macroniste Guillaume Kasbarian.
Aujourd'hui, c'est Halloween et on a toute une série d'horreurs fiscales à étudier toute la journée et toute la nuit. Et nous commençons tout de suite avec cette taxe sur les holdings qui a été proposée par le gouvernement.
Taxe qui irrite aussi les LR et leur chef de file ici à l'Assemblée, Laurent Wauquiez.
On récupère une usine à gaz fiscal qui va consister à nouveau à tout taxer et qui peut potentiellement affecter 20 000 PME.
Si c'était au moins de nature à satisfaire le Parti Socialiste, le calcul pourrait être le bon, mais la taxe telle qu'elle est défendue rate sa cible, regrette Christine Pires-Bono, PS.
Cette taxe est d'une hypocrisie sans nom. Parce que son assiette, elle n'est pas mitée, elle est percée de gros trous. En gros, seuls les comptes dormants seraient ciblés et donc son rendement sera évidemment très faible.
Au-delà des holdings, ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir ce que le gouvernement va présenter comme alternative à la taxe Zucman, cet impôt plancher de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, dont le PS semble avoir déjà fait le deuil. Sébastien Lecornu est effectivement arrivé à l'Assemblée. Dans un premier temps, dit-on à Matignon, le Premier ministre est là pour écouter, mais on peut raisonnablement penser que s'il est venu en personne, c'est qu'il a quelque chose à proposer.
Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Johanna Gabri, qui est pour évoquer la place que prennent ces questions fiscales dans ces débats. Notre invité ce midi, Pascal Saint-Amand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à HEC, ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE. Pascal Saint-Amand, l'Assemblée, on l'entendait, va se prononcer sur la taxe Zucman, réintroduite par amendement lors de l'examen de l'article 3 du budget. Alors, au cœur du débat sur cette taxation des plus riches, il y a la question de l'inclusion ou non des biens professionnels dans l'estimation des patrimoines. Est-ce qu'il faut en comprendre qu'il y a urgence à reconsidérer la façon dont on calcule ce patrimoine des plus riches ?
La réponse est oui, il faut revisiter ces questions et ne pas tomber dans le piège de Zucman, pas Zucman, même si j'apprécie beaucoup Gabriel Zucman. C'est pas la question. La question, c'est comment on rétablit un peu plus de justice entre la taxation du capital et des revenus du capital, donc les dividendes et la détention de patrimoine, ou la transmission de patrimoine au moment des successions, par exemple, et la taxation du travail. Et au cours des 40 dernières années, il y a un déséquilibre croissant qui s'est réalisé. Le travail est plus taxé que le capital. Alors, taxer la détention du capital des plus riches, c'est la proposition de Zucman, ça ne vaut que si vous prenez l'ensemble de la richesse, y compris les biens professionnels, c'est-à-dire les entreprises que vous possédez. Mais si vous taxez ça, vous courez le risque que les personnes qui vont être taxées n'auront pas le cash pour payer l'impôt. Et c'est ça un peu qui bloque la discussion aujourd'hui et qui empêche d'avoir une vision plus globale. Donc, c'est pas dans ce budget-là qu'on va traiter cette question. Il faut taxer davantage les riches, il faut prendre en compte les biens professionnels et pas seulement sur une taxation annuelle de la richesse, mais la transmission et les revenus du capital, la taxation des dividendes. Aujourd'hui, ils sont taxés à 30% au lieu du travail qui est taxé à plus de 45%.
Et mardi, un amendement de la France Insoumise proposant de taxer les multinationales en fonction de leur activité en France a été adopté. Selon ses défenseurs, cette taxe pourrait rapporter jusqu'à 26 milliards d'euros. Elle vous paraît crédible, cette proposition ?
Ben, c'est adopté, donc c'est déjà plus une proposition, mais on va voir si elle tient jusqu'au bout. Il faut toujours faire attention de pas trop charger la barque. Enfin, n'oublions pas que nous, Français, on est les champions du monde de la fiscalité. On taxe tout à des niveaux très élevés. Il y a quand même des injustices qui demeurent, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de manœuvre. Il faut faire attention de ne pas taxer les étrangers ou les profits faits à l'étranger, parce qu'à un moment, on devient un épouvantail soi-même. Donc, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Oui. Historiquement, la taxation du capital n'a jamais été aussi basse. Ça vaut aussi pour l'impôt sur les sociétés qui a été descendu de 33% il y a quelques années à 25%. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour combler un budget sur cette année? Sans doute. Mais ce qu'il faut revoir, c'est de façon fondamentale l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et rétablir un peu plus d'équilibre entre la taxation du travail et la taxation du capital. C'est ça qui est en jeu. Et pour revenir à votre première question, si on veut taxer le capital, il faut taxer aussi, bien sûr, les entreprises, puisque c'est là que les ultra-riches ont leurs biens. C'est pas dans les châteaux, dans les maisons au bord de la mer qu'ils peuvent avoir. En réalité, la vraie richesse, elle se situe au niveau des biens professionnels.
Et en juillet dernier, l'ex-premier ministre François Bayrou, il comptait surtout sur une baisse des dépenses dans le prochain budget, face aux contraintes de la France, plutôt qu'une hausse de la fiscalité, qui plus est des plus fortunés. Comment est-ce que vous comprenez le retour en force en ce moment là de ces questions dans le débat public français? Est-ce qu'il faut y voir l'expression d'attente, peut-être plus prise en compte pour davantage de justice fiscale?
La première chose, c'est la passion française pour l'égalité. Donc ça ne nous quitte jamais et moi j'y souscris. La deuxième chose, c'est le niveau d'inégalité que l'on a est sans précédent, même si en France il est plutôt plus faible qu'à l'étranger. Et donc, il y a un vrai désir de la population de traiter ces questions. Et on est dans un monde un peu fou où vous avez une accumulation de richesses dans quelques mains qui est sans précédent, où les précédents, c'était au 18e siècle avant la Révolution. Et donc, oui, il faut traiter ces questions. Maintenant, il faut pas que ces questions occultent des problèmes plus fondamentaux, qui est que on dépense plus que ce qu'on gagne et on a un niveau de fiscalité qui est très élevé. Donc, avoir un débat un peu dépassionné et un peu intelligent, c'est manifestement ce qui manque et ce qui n'arrivera pas dans la discussion de ce budget qui est un peu hystérique.
Une dernière question au gouvernement. On pense que cette taxe sur les multinationales qu'on évoquait à l'instant va isoler la France du reste du monde. Le gouvernement évoque plutôt la taxation minimale des grandes entreprises pour les pays de l'OCDE qui est entrée en vigueur l'an dernier. Vous avez été l'un des principaux artisans de cette mesure. Elle a été fragilisée par l'exemption des entreprises américaines sur décision de Donald Trump cet été. Est-ce qu'il faut y voir une forme d'échec de l'effort de taxation multilatérale des grandes entreprises ?
Un échec, non, parce qu'elle reste en vigueur et seulement les entreprises américaines seront exemptées, mais elles ne sont pas totalement exemptées parce qu'elles payent 14% aux États-Unis au lieu de payer 15% en France. Alors c'est un peu plus compliqué, elles paieront un peu moins aux États-Unis et avoir fait une concession aux États-Unis, je pense, est une erreur. Mais l'impôt minimum mondial y demeure, il va permettre de lever plus de 150 milliards d'euros d'impôts et surtout de protéger l'impôt sur les sociétés en mettant un plancher à 15% sur les profits que vous faites à l'étranger. Ça tient encore, mais il va falloir être très vigilant. En Allemagne, certains commencent à dire « oulala, mais c'est pas bien, on se met en position de désavantage concurrentiel par rapport aux États-Unis ». Et donc, il faut qu'on tienne, et c'est pas parce que M. Trump décide quelque chose que ça s'applique en France ou en Europe. Et là-dessus, moi, j'appelle les Européens, et les Français en particulier, à faire preuve d'un peu plus de virulence face à nos amis américains.
Merci Pascal Saint-Amand d'avoir répondu à ces questions. Vous êtes professeur à HEC, ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE.
Une audience cruciale depuis ce matin au tribunal de Strasbourg.
Elle doit sceller le sort de l'aciérie Novasco d'Agondange en Moselle. Quatrième redressement judiciaire en 10 ans pour la plus grande usine du groupe de sidérurgie. Les offres de reprise doivent être examinées pour éviter la liquidation. 450 emplois sont en jeu. Malgré l'indignation générale, l'arrivée de Chine au sein du BHV de Paris dans le Marais aura bien lieu mercredi prochain. Annonce de la SGM, propriétaire du célèbre grand magasin de la capitale. Les syndicats du BHV comme la mairie de Paris jusqu'à une partie du gouvernement se sont élevés contre l'implantation physique du géant chinois de mode ultra éphémère à très bas coût, pointé du doigt pour ses pratiques. L'indignation, cette fois d'une trentaine d'avocats, 28 ont saisi la Cour de justice de la République après la visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé mercredi soir. Comme il l'avait promis, le ministre de l'Intérieur affiche son soutien à l'ancien président, le ministre de la Justice, pardon, affiche son soutien à l'ancien président condamné à 5 ans d'emprisonnement dans le dossier libyen pour association de malfaiteurs. D'ailleurs, il n'y voit aucune atteinte à l'indépendance de la justice, contrairement à ses avocats qui voient là un cas de prise illégale d'intérêt, Sarah Guibaudot.
La visite aura duré 45 minutes. Gérald Darmanin avait déclaré qu'il voulait s'assurer de la sécurité de l'ancien président, tout en rappelant qu'il était sensible au sort de son ancien mentor. Le problème pour l'avocat Jérôme Carsenti, c'est que Nicolas Sarkozy a 2 audiences prévues devant la cour d'appel pour sa demande de mise en liberté et pour rejuger l'affaire du financement libyen, et que le garde des Sceaux a toujours autorité sur le parquet.
On voit bien qu'il vient là envoyer un message très direct à des procureurs qui vont devoir requérir. Et donc, ceci, bon, la jurisprudence est à cet égard assez précise, elle dit qu'un seul intérêt moral, le simple fait de manifester une amitié, d'avoir un lien particulier alors qu'on défend un intérêt public, c'est constitutif du conflit d'intérêts.
Il n'est pas sûr que cette plainte soit jugée recevable, mais c'est une alerte de plus. Le plus haut procureur de France, Rémy Heitz, estimait que Gérald Darmanin risquait de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Cette visite, c'est un bras d'honneur, lance un syndicaliste. Autrement dit par Ludovic Fria, le président de l'Union syndicale des magistrats, l'ami a pris le pas sur le garde des Sceaux.
Le nombre de femmes tuées en France augmente. Selon le ministère de l'Intérieur, 107 ont perdu la vie en 2024 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, soit une hausse de 11% sur un an.
Plus d'un tiers des jeunes sont touchés par le harcèlement dès l'école primaire.
Un chiffre en nette augmentation en un an, selon l'étude annuelle de l'association e-enfance. Le harcèlement qui impacte profondément la santé mentale des jeunes victimes alerte cette association. Un quart a déjà pensé au suicide ou à se faire du mal, une part qui monte à plus d'un tiers chez les jeunes filles. Azaïs Perronin, bonjour.
Bonjour.
Et l'étude révèle aussi que les usages numériques amplifient ce phénomène de harcèlement.
Oui, alors qu'ils sont interdits avant 13 ans, 65% des enfants de primaire sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement touche aujourd'hui 18% des 6-18 ans et une lycéenne sur 4 en est victime. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces violences se déroulent principalement sur WhatsApp. C'est ce qu'a précisé ce matin sur France Info Véronique Béchu, présidente de l'Observatoire de l'association e-enfance.
Pour pouvoir discuter sur les devoirs, sur les choses de la vie de l'école, etc., on crée un groupe WhatsApp. Or, effectivement, 41% des enfants cyberharcelés le sont sur WhatsApp, dont 25% dans les groupes de classe WhatsApp, parce que dans ces groupes de classe, il n'y a aucune modération. Les enfants sont entre eux. Donc, c'est une reviviscence de ce qui se passe dans la cour de récréation. Et il n'y a pas d'adulte qui va pouvoir faire la loi. Et en plus, c'est des applications mobiles chiffrées. Donc, les contenus, on ne peut pas les extraire. Donc, tout cet écosystème fait que non, WhatsApp, ce n'est pas plus sécur que les réseaux sociaux pour les parents qui aimeraient que leurs enfants aient un lien en ligne.
Le numérique fait désormais partie intégrante du quotidien des enfants. Partant de ce constat, l'association recommande aux parents d'aborder aussi leur vie en ligne, comme on le fait déjà pour la cour de récréation ou les activités sportives. En somme, parler du numérique comme on parle du reste de la journée. L'étude rappelle enfin le numéro national d'aide aux victimes, le 3018, qui reste encore trop méconnu des parents et des enfants.
En Australie, c'est simple, hein, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube seront interdits aux moins de 16 ans dans un peu plus d'un mois. À voir si la mesure sera respectée, mais l'échéance ne fait pas les affaires des jeunes influenceurs les plus en vogue. Exemple, avec cette famille auto-baptisée Empire Family, elle a, elle, tout simplement décidé de plier bagages afin de continuer ses activités ailleurs. À Sydney, les précisions de Grégory Pless.
Ce ne sera plus à Perth, sur la côte ouest australienne, que la Empire Family fera étalage de sa vie de rêve auprès de ses 2 millions d'abonnés, Mais depuis Londres, cette famille, composée de deux mères, d'un fils de 17 ans comptant à lui seul près de 3 millions d'abonnés et d'une fille de 14 ans en revendiquant plus d'un demi-million, vient en effet d'annoncer et surtout d'expliquer pourquoi elle pliait bagage sur sa chaîne YouTube.
L'Australie va interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans et nous comprenons que le but est de protéger les jeunes des dangers d'Internet. Mais nous, on utilise Internet à bon escient.
Cet extrait, il est le seul encore disponible en ligne. La vidéo annonçant le départ de la famille, ayant depuis sa très large reprise dans les médias australiens, était supprimée. Les parents de cette famille y confiaient leurs doutes quant à la méthode adoptée par le gouvernement australien, estimant notamment que cette interdiction basée sur l'âge sera très simple à contourner. Et de fait, des chercheurs ont publié le mois dernier une étude testant toutes les méthodes de vérification d'âge envisagées pour cette mesure et démontré qu'elles étaient toutes très faciles à tromper. Une première mondiale qui pourrait donc faire pchit, l'interdiction entrera en vigueur le 10 septembre prochain.
Les violences électorales en Tanzanie ont fait environ 700 morts depuis mercredi, c'est ce qu'estime le parti d'opposition. L'ONU appelle les forces de sécurité à la retenue, alors que le pays est toujours confiné face au chaos électoral provoqué par les résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Après Donald Trump, c'était une autre rencontre très attendue ce vendredi entre le président chinois Xi Jinping et la nouvelle première ministre japonaise, la très conservatrice et nationaliste Sanae Takaichi. Elle a déclaré avoir fait part des graves inquiétudes de son pays sur plusieurs sujets, dont la mer de Chine méridionale. Juste avant cela, autre échange important pour le dirigeant chinois avec le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney. Les deux pays sont en froid depuis plus de 8 ans et cette rencontre marque donc des retrouvailles sur fond, sans surprise, de guerre commerciale avec les États-Unis. Explication de notre envoyé spécial en Corée du Sud, Sébastien Berriot.
Au sommet du G20 en 2022, la brouille entre la Chine et le Canada avait pris une tournure inédite lorsque dans un couloir du sommet et devant les caméras, le premier ministre canadien de l'époque, Justin Trudeau, s'était fait sèchement réprimander par Xi Jinping. Une scène humiliante, à l'image de relations bilatérales exécrables depuis l'arrestation au Canada en 2018 d'une dirigeante du groupe chinois Huawei. Deux ressortissants canadiens accusés d'espionnage ont par la suite été détenus en Chine, ce qui a envenimé le climat. Et ensuite, plus récemment, une augmentation des droits de douane des deux côtés a ralenti des échanges commerciaux non négligeables qui s'élevaient en 2024 à 72 milliards de dollars. La Chine est le deuxième partenaire commercial pour l'économie canadienne qui exporte notamment des produits agricoles. Après cette longue période de crise, l'heure est donc désormais au rapprochement. Tous les deux visés par l'offensive commerciale de Donald Trump, la Chine et le Canada savent qu'ils ont intérêt à se rapprocher. Xi Jinping appelle à rétablir des relations saines, stables et durables et il invite le Premier ministre canadien à venir à Pékin. Ce n'est pas arrivé depuis 9 ans.
Les explications de Sébastien Berriot, notre envoyé spécial en Corée du Sud, en marge du sommet économique pour l'Asie Pacifique.
C'est un nouveau coup de tonnerre dans un scandale qui éclabousse la famille royale britannique.
Le prince Andrew, 65 ans et frère du roi, mis en cause pour ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, va perdre son titre de prince et être aussi bientôt expulsé de sa résidence royale. Il faut dire que la situation était devenue intenable pour Buckingham Palace, qu'il a annoncé dans un communiqué hier soir. Gaëlle Joly, vous êtes notre correspondante à Londres, bonjour.
Bonjour.
Et c'est le roi Charles III qui a tranché pour protéger la couronne britannique.
Ah oui, la pression était devenue trop forte pour le roi, interpellé en pleine rue ces derniers jours après la publication la semaine dernière des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, testament posthume, puisque la principale accusatrice dans l'affaire Jeffrey Epstein s'est suicidée en avril dernier. Dans son livre, elle raconte avoir été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew à 3 reprises, dont 2 au moins quand elle avait tout juste 17 ans. Le prince a toujours nié ces accusations, mais les parlementaires, d'ordinaire plutôt en retenue quand il s'agit de la famille royale, ont réclamé sa destitution et, vous le disiez, son départ immédiat de Royal Lodge, ce manoir de 30 pièces, propriété de la couronne et dont le journal The Times a révélé qu'il ne payait pas de loyer depuis 2003. Andrew ira s'installer à Norfolk, dans une propriété privée appartenant au roi à 180 km de Londres. Une descente aux enfers pour le fils préféré de la reine, déjà mis à l'écart de la famille royale en 2019. Il avait dû renoncer il y a 2 semaines à son titre de duc d'York. Dans un communiqué transmis à la BBC, la famille de Virginia Giuffre a crié victoire aujourd'hui. aujourd'hui, une Américaine ordinaire issue d'une famille américaine ordinaire a fait chuter un prince britannique avec sa vérité et son courage extraordinaire.
Merci Gaëlle Jolie en direct de Londres. Le temps de ce dernier jour d'octobre avec des nuages sur un quart nord-ouest de la France, de la pluie. En Bretagne, ailleurs du sud-ouest au nord-est, le ciel sera voilé. Il perce le soleil, lui, percera dans le sud-est. Quelques ondées possibles en Corse et des températures un peu plus douces. 15 degrés attendus à Lille, Brest et Rouen. 16 à Paris et Cherbourg. 17 à Limoges et Belfort. 19 à 20 degrés autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois et Aloïse Guérin. Mineta Djawara à la technique.